RCF.
Les journées de Jésus sont fructueuses, c'est ce que rapporte Marc dans son évangile. Ce dimanche, il nous le décrit un jour de Shabbat à Capharnaüm, où après avoir enseigné à la synagogue, il vient au chevet de la belle-mère de Pierre, guérit une foule de gens mal en point, dort quelques heures, puis après sa prière matinale, s'en va ailleurs, pressé d'annoncer la bonne nouvelle. Pour commenter l'évangile de ce dimanche, je reçois cette semaine Marie-Christine Bernard, qui est théologienne spécialisée en anthropologie. Elle est également comédienne. Nous écoutons la parole chez Marc, chapitre 1, versets 29 à 39.
En quittant la synagogue, Jésus, accompagné de Jacques et de Jean, alla dans la maison de Simon et André. Or, la belle-mère de Simon était au lit et avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens, atteints de toutes sortes de maladies, et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler, parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert. Et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent « Tout le monde te cherche !» Jésus leur dit « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leur synagogue et expulsant les démons.
Marie-Christine Bernard, resituons avec vous le contexte. Nous sommes dans l'évangile de Marc. Jésus vient de sortir de la synagogue où il a guéri un homme possédé par un esprit impur. Et on peut dire qu'il continue son œuvre de guérison.
Oui, il enseigne, il exprime ce qu'il a annoncé vraiment tout au début, là, quand il proclame pour la première fois la bonne nouvelle. Voilà, en disant, donc on est au verset 15, un peu plus haut, le temps est accompli et le règne de Dieu s'est approché, convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Donc ça, c'est d'une certaine manière le porche d'entrée dans la geste de Jésus. Et là, on a cette geste qui commence à se déployer.
Nous reprenons avec vous, verset par verset, cet Évangile. Aussitôt sorti de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et André. Donc il y a le petit mot « aussitôt » qui ponctue toujours le récit de Marc. Hein.
Oui, parce que les choses se passent au présent dans Marc. Hein. Le royaume s'est approché, c'est maintenant. Donc il n'y a pas de temps mort, on va dire. On est dans cette vie que Jésus est en train d'incarner, cette vie qui est donnée par Dieu et qui remet toutes les choses en bonne santé, on va dire, dans tous les sens du terme. Et donc voilà, il n'y a pas de temps mort parce que la vie est continue. Alors, ça, c'est la première chose qui me frappe. La deuxième, c'est évidemment l'histoire de la maison. Vraiment, on voit un homme fréquenter les maisons des gens, aller chez les uns, chez les autres, de manière, je vais dire, ordinaire, comme on le fait dans n'importe quel village. On se connaît, et puis on s'invite mutuellement, on dit, tiens, bah, tu arrête-toi à manger, etc. On va prendre un café, machin, bon. Et Jésus est absolument dans cette vie-là, ordinaire, sans accrocs, sans en faire des tonnes, quoi.
Effectivement, nous passons d'un lieu de culte, la synagogue, au lieu domestique, la maison. Donc ça nous dit quelque chose de l'agir de Jésus qui est capable d'aller sur le terrain du religieux, mais aussi dans la vie ordinaire.
Absolument.
Quelques versets plus tôt, on était au bord du lac. L'évangéliste Marc avait précisé que les disciples avaient tout plaqué pour le suivre. Alors a priori, ils ont encore une famille, puisque on nous parle de la maison de Pierre.
Oui, tout à fait. C'est des gens qui habitaient quelque part, ils avaient un métier, etc., hein. D'ailleurs, à la fin de l'évangile, sinon celui-là, du moins d'autres synoptiques, on va le voir, les disciples qui reviennent, ils reviennent dans leur barque, qui reviennent pêcher. Là aussi, ça dit bien aussi comment, dans la vie, comment on peut, à certains moments, j'allais dire, faire comme un grand détour pour vivre ce qu'on a à vivre. Ça ne veut pas dire qu'on lâche tout, parce que des fois on dit les disciples lâchent tout pour suivre Jésus. C'est pas faux, ils lâchent tout, mais ils ne perdent rien d'une certaine manière, sans stocker, hein. C'est-à-dire que c'est pas une sorte de sabordage
de
soi-même. Alors sacrifice, je sais pas, pas de sabordage, disant bon allez hop, j'efface tout ce qui précède n'a aucun sens et n'a plus aucune valeur. Non non, ils sont capables de se détacher de ce qu'ils font et de ce qu'ils de leur univers familier, de s'en détacher. C'est sans doute nécessaire quand on est à la suite de Jésus pour évidemment émerger à soi-même. Et puis quand on a émerger à soi-même, on peut sans problème retrouver un certain nombre d'éléments qui ont structuré notre personne, qui nous ont permis d'être ce que nous sommes aujourd'hui.
Marie-Christine Bernard, l'évangéliste Marc nous dit que la belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Nous apprenons que Simon est marié et que sa belle-mère a de la fièvre.
Oui, alors probablement mariée, parce que là, les exégètes, je ne sais pas où ils en sont, hein, je ne suis pas exégète moi, hein, mais ça se discutait, est-ce que c'est la belle-mère au sens de remariage du père, ou est-ce que c'est la belle-mère au sens de mère de son épouse. Alors, je ne sais pas trop pourquoi ça serait un problème, d'ailleurs, l'un comme l'autre. Enfin bon, on peut imaginer que ce soit une belle-mère, j'allais dire classique, c'est-à-dire la maman de son épouse.
Voilà. Et alors, on parle à Jésus, hein, généralement, on l'avait vu dans les épisodes précédents, les malades ne viennent pas tout seuls forcément à Jésus, on les amène, on parle d'eux, et d'ailleurs on va le voir dans le texte.
Oui, absolument, oui, parce que sa renommée, on était prévenu déjà dans le récit de la synagogue, hein, sa renommée se répand dans toute la région. Une rumeur, voilà, de le téléphone arabe, entre guillemets, même si on en mieux sémite ici, mais permet à cette nouvelle de commencer à se propager. On a rencontré un type là qui est capable d'expulser les démons, et donc on va en parler. Et puis là, évidemment, quand on constate que cette femme a de la fièvre et malade, spontanément, on va en parler à Jésus. Voilà.
Alors Jésus s'approcha, nous dit Marc, la saisit par la main et la fit lever. Qu'est-ce que vous diriez sur la manière même dont Jésus s'y prend ?
Ah, mais ça, c'est... Moi, je trouve ça bouleversant, ce verset. Franchement, bouleversant. Pourquoi ? Parce que on voit un Jésus extrêmement proche, dans une relation d'humain à humain, ce qui n'était pas gagné dans un milieu quand même patriarcal où les femmes n'étaient pas forcément considérées en dehors du fait qu'elles puissent être mères de famille. Alors malade, une femme qui est normalement la maîtresse du foyer, qui se trouve au lit, ça c'est très mal vécu en fait, par tout le monde, par les femmes concernées comme par les hommes. Donc c'est une situation extrêmement compliquée dans un milieu, j'allais dire encore une fois, à la fois patriarcal, et où la femme avait comme statut le plus prestigieux était vraiment le statut de femme au foyer. C'était positif, hein. Dans un milieu patriarcal, je veux dire, tout, ça fait système. Une femme est fière d'être dans ce milieu-là, dans cette mentalité-là. Une femme est fière de pouvoir tenir sa maison, d'élever ses enfants, de montrer qu'elle sait à recevoir, etc.
Donc Jésus vient au secours de cette femme-là.
Et là, il y a comme une panne. C'est en panne. Il y a un élément de ce système qui est en panne. Et comme par hasard, c'est le rouage. C'est-à-dire qu'il ne peut pas s'attabler, ils ne peuvent pas s'attabler, parce que ça ne marche pas. Alors, donc déjà, Jésus s'approche. Il s'approche.
Ensuite, il la saisit par la main.
Il la saisit par la main. Il lui tend la main. Et c'est ce geste-là, d'une main tendue, et de la main de cette femme, qui va se poser dans celle de Jésus. Et Jésus la tire comme on tire quelqu'un du tombeau. Il a fait lever.
Oui, le verbe utilisé est le même que ressusciter.
Voilà. Hein, lever. Et je dirais ici, il n'y a pas de parole. C'est-à-dire que le geste lui-même parle. C'est-à-dire que cette femme, compte tenu de ce qu'on peut imaginer de ce que c'est sa culture, elle a percuté l'immense respect et la reconnaissance de sa dignité qui passe à travers cette manière de faire. Il n'y a aucun mot de reproche. Tu peux pas te bouger, quand même, on a du monde, c'est pas possible quand on est...
Reçoit Jésus.
Voilà, quand même, Jésus, pour une fois qu'on a quelqu'un, etc. Et là, il n'y a rien de ça. Jésus va tout de suite au cœur de la question. C'est est-ce que moi, femme au foyer, dans cette société patriarcale, est-ce que je suis quelqu'un ? Est-ce que quelqu'un va me voir comme une personne ?
RCF, enfin une bonne nouvelle.
Marie-Christine Bernard, Marc précise que la fièvre la quitta et elle les servait. Donc cette femme est remise debout et elle peut vivre à nouveau.
Mais oui, alors évidemment, il ne faut pas se tromper sur le « elle les servait ». Parce que alors évidemment, j'entends les commentaires, ah bah oui, c'est bien la peine qu'ils la guérissent pour en faire à nouveau une servante de tout le monde. Mais ça, c'est des projections de notre époque. Ce serait aujourd'hui, bien sûr, on aurait de bonnes raisons de penser ça. Mais à l'époque, non. À l'époque, c'était vraiment lui dire, je lui redonne son statut. Je lui redonne son statut qui est en réalité le rouage principal d'une vie domestique possible et donc une vie sociale possible. C'est elle le rouage principal dans ce système. Alors, il renverse complètement la perspective. D'habitude, les femmes, bon, ben voilà, on dit elles sont là, c'est les petites mains, voilà, genre, bon. En réalité, non, c'est les chevilles ouvrières de la vie domestique qui, elle-même, est l'élément principal d'une vie sociale. Quand Marc dit elle les servait, ça veut dire qu'elle reprend son statut. Mais alors, cette fois, je veux dire, j'imagine que les regards sur elle ont bougé. Il y a un avant et un après.
Marie-Christine Bernard, l'évangile de ce dimanche se poursuit, nous sommes toujours dans la même journée, jour de Shabbat. Le soir venu, nous dit Marc, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. Comme c'est Shabbat, jour sans activité, on comprend que les choses vont se passer le soir.
C'est-à-dire que lui, Jésus, manifestement, il a guéri déjà deux fois, enfin, il a expulsé un des démons dans la synagogue, il a guéri la belle-mère de Simon, il n'a pas attendu que le Shabbat soit terminé. On est toujours au Shabbat, c'est le jour du Shabbat qui guérit cette femme. Hein.
Oui, mais là, visiblement, les gens attendent le soir.
Ben oui, parce que eux, les gens ne sont pas encore... Enfin, eux respectent le Shabbat d'une certaine manière, ils ne vont pas se bouger avant qu'ils puissent, que la loi l'autorise, donc ils attendent le coucher du soleil pour ramener leur malade.
Ils ne sont pas dans la logique de Jésus.
Ah ben pas encore, non. Manifestement.
Ce geste d'amener son proche à Jésus, il est très important puisque Marc nous dit que la ville entière se pressait à la porte. Il y a une image un peu...
Ah oui, c'est le succès.
C'est comme si la synagogue qui était mise en scène au moment de l'expulsion des esprits impurs ouvrait ses portes et la synagogue devenait...
Mais oui.
L'espace public.
Oui, c'est un peu comme si Jésus officiait, entre guillemets, officiait dans l'espace profane parce que c'est là le lieu de Dieu. Alors évidemment, l'espace profane intègre les lieux dits sacrés, mais le Seigneur, lui, se révèle dans tous les lieux où se trouvent des humains, bien sûr.
On imagine qu'il y a ceux qui souffrent physiquement, ceux qui sont possédés par des démons. Finalement, on ne sait plus très bien où se situe la frontière entre la dimension physique, psychique, spirituelle. Au fond, Jésus prend tout.
Mais ce n'est pas qu'il prend tout, c'est qu'il a compris il a une intelligence de l'humain, moi, qui... Enfin, je suis admirative. Bah, vous voyez, je ne suis pas subjective, non. Je ne suis pas objective non plus. Je suis fan. Parce que je trouve que Jésus a une intelligence humaine qu'on ne cesse de redécouvrir. Par exemple, il a parfaitement compris, on le sait maintenant. Alors, pour le coup, les travaux des exégètes l'ont mis en évidence. Les Juifs de cette époque, dans ce pays occupé, etc., développaient beaucoup de mots de type psychosomatique. Par exemple, ce qu'on appelle la lèpre, en fait, c'est un mot générique qui désigne des tas de maladies de peau. Et on sait bien que pour une bonne part, ces maladies se manifeste quand on est dans une situation très oppressante, on n'est pas à l'aise dans son rapport avec le monde extérieur, etc. Il ne faut pas oublier que le monde était, l'espace-là était occupé par les Romains. On est bien avant l'invention des droits de l'homme, ne faut pas l'oublier. Je veux dire, les occupants, on ne connaît aucun occupant qui se tienne bien par rapport aux populations du pays où ils se trouvent, mais là, particulièrement à cette époque-là, il y avait une brutalité ordinaire. Donc, il faut imaginer les populations civiles, comment elles vivent ça. Et donc, c'était quand même très difficile, tout était compliqué, et il y avait beaucoup de maladies de type psychosomatique, ce qui ne veut pas dire qu'elles n'étaient pas réelles, elles étaient vraiment réelles, les gens souffraient vraiment, mais de fait, c'est typiquement ces maladies où les médecins se cassent un peu les dents là-dessus, parce qu'on ne sait pas trop, alors on fait ce qu'on peut, mais c'est très très invalidant, d'autant plus qu'il y a des questions de pureté, de rapport à la pureté, donc ces maladies de peau, ça nous rendait la vie sociale impossible, quoi. Donc... on a tous ces gens-là, les fameux les esprits impurs ou les gens avec des démons, etc. On sait maintenant aussi que c'est la manière dont on désignait des problèmes psychiques, voilà, des difficultés psycho-affectives, des choses comme ça qui pouvaient se manifester dans la vie sociale ou affective par une sorte d'inadaptation et parfois des crises, etc. Donc là aussi, ça pouvait c'était souvent lié à une vie sociale qui n'était pas équilibrante, quoi.
Marie-Christine Bernard, Marc nous dit que Jésus guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était.
Oui, Ça, c'est vraiment intéressant parce que d'abord, comment dire, il y a plusieurs niveaux pour entrer dans ce passage-là. Le premier niveau qui se présente, qui fait suite à ce que je viens de dire, c'est que souvent les personnes atteintes comme ça de problèmes psychosomatiques, en réalité, sont souvent lucides sur la réalité. Par exemple, ils vont dire c'est invivable. Et ils l'expriment par le corps. Et de fait, elle l'est. Pour elle, elle l'est. Donc, il y a une lucidité. Et là, vu la manière dont Jésus, très rapidement, par le geste et la parole, arrive à tomber juste à chaque fois, évidemment, en face, il y a une lucidité. C'est-à-dire, toi, pour faire ça, on sait qui tu es. Mais c'est énorme pour un juif de l'époque de dire, cet homme-là, avec ses deux pieds, ses deux bras, sa tête sur les épaules et tout ça, c'est le Christ. Donc, il y a une vraie lucidité. En revanche, qu'est-ce qu'on fait de cette lucidité? Qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on sait? Si ce qui est exact est dit dans un contexte non porteur, ça n'honore pas la vérité.
Donc de dire tout fort que Jésus est le Christ à ce moment-là, ça n'honorait pas la vérité.
Ça le court-circuite. Parce que les personnes, du coup, risquaient d'externaliser leur attente de salut, c'est-à-dire d'avoir un rapport magique avec cet homme, en disant, puisqu'il sait faire, puisqu'il guérit, etc., moi j'ai plus rien à faire. Or, on sait bien que chaque fois que Jésus, et on le voit dans les autres évangiles, chaque fois que Jésus guérit, quand on nous décrit la scène en un petit peu plus de détails, on se rend compte qu'il demande toujours à son interlocuteur de se mettre en branle, de se mettre en route.
Et parfois, que veux-tu que je fasse pour toi?
Mais voilà, et tout à l'heure avec cette femme, cette belle-mère de Simon, il lui dit pas « lève-toi, puis je vais te mettre les mains sur la tête pour que t'ailles mieux ». Non, non, il lui tend la main, mais il ne la lève pas de force. Il lui tend la main et de fait, ça lui permet d'impulser ce mouvement, mais l'autre doit se lever. Or, si on dit, mais voilà, ça y est, on a trouvé celui qui vient directement de Dieu, il a la solution à tous nos problèmes, il n'y a plus qu'à aller le toucher ou s'agiter devant lui, ça, la bonne nouvelle du royaume déjà là, elle est court-circuitée, elle ne peut pas être entendue jusqu'au fond de la liberté humaine qui doit l'accueillir.
Enfin une bonne nouvelle, Béatrice Soltner.
Marie-Christine Bernard, nous continuons à regarder avec vous l'évangile de ce dimanche, chez Marc, chapitre 1, versets 29 à 39. Jésus a passé sa journée à faire le bien, nous l'avons vu, à soulager les malades, que ce soit à la synagogue, dans la maison de Pierre, mais aussi dans la ville. Et Marc continue son évangile. Le lendemain, Jésus se leva, bien avant l'aube, il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là, il priait. Donc on imagine que la soirée de Jésus a été assez chargée avec tous ces malades. Marc utilise des verbes de mouvement, il se lève, il sort, il se rend. Donc il y a une mise en mouvement de Jésus, il aurait pu se dire, bon, on va profiter un peu du succès, mais pas du tout.
Oui, Jésus est un vivant. Et c'est pas par hasard si le verset suivant, c'est évidemment cette idée de faire taire les démons parce qu'il le connaissait. C'est juste après qu'il s'en va, Jésus. C'est-à-dire, il sent que là, il y a un risque. Je profite d'ailleurs pour dire, quand on dit qu'on annonce l'évangile, il faut faire attention de ne pas confondre ça avec, j'allais dire, excusez-moi l'expression, mais brailler le nom de Jésus comme ça dans la rue en disant on n'annonce rien quand on braille le nom de Jésus pour rien comme ça en l'air. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Annoncer l'évangile, c'est faire advenir la bonne nouvelle telle que Jésus l'incarne. Donc ça demande du doigté, ça demande de ne pas court-circuiter la relation humaine, la liberté des personnes, etc. C'est un enfantement. On n'est pas dans quelque chose qui se proclame de l'extérieur, comme ça, avec des haut-parleurs. Après, on va réfléchir à la technique, on va faire des flash mobs, on va faire des vidéos, des machins. Mais non, attendez, c'est pas de cet ordre. On est dans l'engendrement de la personne elle-même. Donc on voit bien comment Jésus sent le danger et du coup prend du recul. Et comment il prend du recul? Il va dans un endroit désert et là, il prie.
Alors, la prière, qu'est-ce que vous diriez sur cette prière de Jésus?
Ah, ça, c'est la façon de se relier à l'essentiel. C'est-à-dire, on se relie au centre, au cœur, dit la Bible, le centre de la personne, dans ce lien avec le Créateur. Toujours là, toujours disponible, toujours présent. Il faut parfois, comme on dit, se recentrer. Non pas sur son nombril, mais se recentrer à partir du cœur de sa personne vers ce qui nous relie à celui qu'on appelle Dieu, notre Père, Créateur, Sauveur, peu importe le nom qu'on lui donne, mais moi je l'appelle l'essentiel, voilà, l'amour avec un grand A. Et il y a des moments où on a besoin effectivement de se recentrer, de se réouvrir à la grâce de Dieu pour la recevoir à nouveau et à nouveau. Et dans cette relation-là, effectivement, on laisse décanter les choses pour y voir plus clair. C'est un temps aussi de discernement. On laisse les choses se décanter. Rien de tel qu'un désert pour voir un petit peu qu'est-ce qui compte, qu'est-ce que j'ai à faire. Et Jésus, manifestement, se pose la question, bon, qu'est-ce que j'ai à faire ?
Alors que Jésus prie, Marie-Christine Bernard, Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent, ils lui disent « tout le monde te cherche ». Est-ce que parce qu'on s'est dit, il y a là un guérisseur hors pair, il ne faut pas qu'il nous échappe, vite, ah bah, reviens
C'est-à-dire, la gloire du maître rejaillit sur les disciples, forcément. Hein, donc, ils sont contents, ils ont été choisis, ils sont autour du type qui commence à avoir un succès fou, on comprend. Et c'est d'ailleurs intéressant parce qu'en fait, il n'y a qu'eux qui le cherchent et ils disent « tout le monde te cherche ». Moi, j'aurais dit « nous, on te cherche ». Mais tout le monde, manifestement, la foule n'a pas suivi pour le chercher. Alors, c'est peut-être vrai, c'est peut-être faux, c'est peut-être exagéré, on commence déjà à se prendre un peu au sérieux, c'est possible, je ne sais pas. En tout cas, tout le monde te cherche. Moi, ce que j'entends à cette question, c'est qu'il faut quand même une bonne personnalité, très bien dans sa tête, pour ne pas céder. Parce que quand même, tout le monde te cherche. Qui est capable de dire « si tout le monde me cherche, je suis capable de tourner les talons et d'aller plus loin ». Ça demande une liberté intérieure extraordinaire.
Et alors Jésus, justement, leur répond « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Donc Jésus ne profite pas du succès local,
non.
Il part ailleurs.
On voit bien que son souci à Jésus, c'est pas d'avoir du succès, c'est d'annoncer le royaume, c'est tout. Alors quand il sent que c'est mal barré, parce que là, ça y est, on commence à le faire rejaillir sur lui des images du Christ, du Messie, une espèce de Deus ex machina qui tient tomberait du ciel pour sauver je sais pas quoi, enfin on est hors sujet, il dit bon, je vais pas perdre mon temps là, il faut que je pousse, parce qu'il y a d'autres gens qui attendent la bonne nouvelle, il faut que je continue mon job, quoi.
Lisons la finale de l'évangile de ce dimanche. Jésus parcourut toute la Galilée, proclamant l'évangile dans leur synagogue et expulsant les démons. Donc visiblement, Jésus part en mission chez lui en Galilée. Et là, il va utiliser finalement les lieux de culte de sa religion, puisqu'il va à la synagogue.
Ouais. Ben oui, parce que c'est là que normalement, on honore la relation de Dieu avec son peuple. Et donc, c'est logique que Jésus passe par là pour dire « Mais attends, la relation de Dieu avec son peuple, c'est ça. C'est que vous alliez bien. C'est que vous alliez bien. » De corps et d'intérieur, si tant est qu'on puisse les séparer. Et il ne fait pas que de parler, il le fait. La finale de ce qu'il fait, ce n'est pas la guérison, c'est la proclamation du royaume à travers cette guérison.
C'est la parole.
Parole en tant qu'avec un P, c'est-à-dire c'est un mélange de mots, de silence et de gestes qui fait que ça parle, c'est-à-dire ça change la personne, pour un meilleur, pour un mieux, un qualitatif.
C'est pour ça que de temps en temps, on entend des auditeurs de Jésus qui disent qu'ils étaient frappés par son enseignement.
Ben c'est ça, son autorité. Parce qu'il fait ce qu'il dit et il dit ce qu'il fait. Ce qui est quand même incroyable. Ça, on n'a pas l'habitude, y compris dans la religion. Hein, et ça, on l'a dans notre vie spirituelle parfois. Il y a des personnes qui vous disent ça. J'ai entendu quelqu'un parler. Ou bien j'ai vu quelqu'un faire. Ça m'a parlé. Elle n'a rien dit, la personne. Mais moi, ça m'a parlé. Ou bien j'ai entendu tel mot, un mot familier. Mais là, ce jour-là, ça m'a éclairé. C'est comme ça la vérité qu'elle fait son chemin. Et on voit bien que du côté de Jésus, il proclame le fait que Dieu est, EST, là, présent, maintenant, pour tout cœur qui s'ouvre à sa présence.
Marie-Christine Bernard, nous avons pris le temps de regarder l'évangile de ce dimanche. En quoi est-il une bonne nouvelle pour nous aujourd'hui ? Nous ne sommes pas en Galilée, nous sommes dans notre pays actuellement, en 2021.
Et qui ressemble beaucoup à la Galilée de Jésus, parce que c'est un mélange de gens, parce qu'il y a plein de croyances différentes, parce que tout le monde revendique plus ou moins d'avoir la vérité de son côté, parce qu'on a des soucis de vie sociale, comme il y en a à chaque génération. On est comme la Galilée. Alors donc, ça rassure, on se dit, bon, ben, évidemment, il faut faire quelques opérations de changement, parce que on n'est plus dans une société patriarcale, rurale, etc. Et on n'est pas occupé par les Romains. Mais mutadis, mutandis, on est dans une société avec tous ses rouages compliqués, etc.
Et oui, puis, mais on va pouvoir vous dire que Jésus n'est plus là, lui.
Il n'est plus là, mais quand on a écrit l'évangile, il n'était plus là déjà. Hein, l'évangile est composé pour témoigner de ce qu'on a vécu, de ce qu'on vit quand on s'ouvre à la grâce de Dieu et Jésus en est l'incarnation. Mais n'oublions pas qu'au temps de Jésus, tout le monde ne s'est pas converti, tout le monde n'a pas reconnu Jésus comme Christ, même les gens qui étaient guéris. Ils ont pu en rester au fait que c'est un bon guérisseur, quoi. Mais c'est tout. Et puis, il n'a pas eu beaucoup de soutien à la fin de sa trajectoire, hein, comme on peut le voir. Donc, quand on dit parfois, bah, ils étaient quand même plus vernis que nous parce qu'ils l'ont vu en vrai, ben non, en fait. Et l'Évangile ne nous raconte pas comment Jésus a été vu en vrai. Il nous raconte comment la foi dans cet homme peut se dire autant que possible dans des mots, alors dans des récits, dans des choses qui font référence évidemment à ce dont on se souvient de ce qu'il a fait. Mais c'est un récit composé, comme celui de Luc, qui était très, très clairement exprimé dès le début hein, dans Saint Luc. Je vais composer mon récit de telle sorte que vous croyez. Ça, c'est vraiment la dynamique de l'écriture des évangiles.
Où trouver Jésus aujourd'hui? On voit dans l'Évangile, c'est toutes ces personnes qui vont vers lui, qui le cherchent. Où le trouver?
Eh bien, où le trouver? En s'ouvrant intérieurement à son esprit, à son souffle, dans la foi, heureux celui qui croit. C'est quoi l'œuvre de Dieu, dit dans Saint Jean, un peu la question que Jésus pose pour y répondre. C'est quoi l'œuvre de Dieu? L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez. Ayez la foi. Faites confiance en Dieu. Faites confiance en Dieu. La vie que vous vivez, elle est reçue par lui. Elle est passée par des médiations humaines, on est d'accord. Elle continue d'être incarnée dans du terrestre et du tangible, mais à l'intérieur de cela, il y a cet esprit du Créateur Sauveur qui nous cherche, qui nous habite. À nous de nous ouvrir. La bonne nouvelle, c'est ça. C'est que non, Dieu n'est pas réductible à la religion. Sa présence n'est pas réductible à un lieu comme la synagogue ou tel autre lieu consacré. Oui, Dieu prend au sérieux que notre vie quotidienne. Il n'y a rien de méprisable. Tant que c'est humain, il n'y a rien de méprisable pour Dieu.
Un mot sur la prière, puisqu'on voit Jésus prier dans cet évangile. Qu'est-ce que c'est la prière pour nous aujourd'hui? Ça veut dire quoi, prier?
La première chose qui me vient, prier, c'est se relier. C'est se relier à Dieu. Donc, prendre conscience de sa présence, respirer, accueillir son souffle, et puis écouter sa parole, mais vraiment profondément dans le silence. Voilà. Et puis, éventuellement, compte tenu de ce que ça inspire, éventuellement lui parler, soit pour lui remercier pour des choses concrètes, lui demander pardon pour des choses qu'on a foirées, lui offrir des choses, lui demander des grâces. Mais attention, il donne le Seigneur. Hein. Quand on donne, on demande vraiment sincèrement au Seigneur, il donne. Alors bon, faut quand même réfléchir à quelle grâce on lui donne, on lui demande. Hein. Si, ne demandez pas tout de suite le martyr, parce que ça, il faut pouvoir gérer. J'aime bien Saint Ignace parce qu'il dit souvent qu'enfin, il nous invite pendant les exercices à demander des choses au Seigneur, mais en précisant toujours, je te demande ceci, Seigneur, mais si ça ne doit pas blesser la charité. C'est-à-dire que, bon, sous réserve que je sois capable, en fait, de vivre la grâce que je demande sans que ça se retourne contre ce que je demande, à savoir aimer mieux. Donc voilà, alors je te demande telle ou telle chose, mais sous réserve que ça ne blesse pas la charité, quoi. Alors ça, je trouve que c'est une prudence tout à fait honorable.
Allons ailleurs, dit Jésus à la fin du texte. Ça veut dire quoi pour nous aujourd'hui? Allons ailleurs.
Restons ouverts, debout. Quelqu'un qui est ouvert, il a toujours les yeux sur l'horizon.
Merci à vous, Marie-Christine Bernard. L'évangile que nous avons lu est à retrouver chez Marc, chapitre 1, versets 29 à 39. Je signale que votre dernier livre, édité au Passeur, s'intitule « La laïcité, ça repose Dieu ». Et puis on peut se rendre sur votre site marie-christine-bernard.org.